Morning Weekend. La double page info du week-end, Fabrice Lundy sur BFM Business.
Good morning week-end, l'actualité à l'étranger de la semaine, revue, corrigée par tous nos spécialistes ce matin. Philippe Moreau-Desfarge, bonjour Philippe.
Bonjour Fabrice.
Chercheur à l'IFRI, auteur de la Géopolitique pour les nuls, deuxième édition. Frédéric Ancel est avec nous, bonjour Frédéric.
Bonjour Fabrice.
Frédéric Ancel, professeur de relations internationales à l'ESG Management School et à Sciences Po Paris. Le grand retour de Pascal Johanna. Bonjour Pascal.
Bonjour Fabrice.
Quel plaisir, ça faisait bien longtemps qu'on ne vous avait pas reçu dans Good Morning Weekend. C'est la directrice générale de la Fondation Robert Schuman, co-auteur, co-directrice du rapport Schuman sur l'état de l'Union européenne. Alors, beaucoup de sujets encore ce matin, actualité internationale. On va pas vous parler de la présidentielle française hein, ce dimanche, bien entendu. On évoquera eh bien quelques scandales autour du Secret Service de Obama. De Juan Carlos d'Espagne, qui s'est excusé, hein. Voilà, c'est une chose extrêmement inédite, hein. On nous racontera tout à l'heure Philippe Moreau-Desfarge et puis Pascal Johanna. On évoquera la Corée du Nord avec un invité qui nous rejoindra d'ici une quarantaine de minutes, qui revient de Pyongyang. Il était à la tribune officielle, donc, lors des cérémonies des 100 ans de la naissance de Kim Il-sung. C'était dimanche dernier. Ce sera dans une quarantaine de minutes, juste après les infos de la nuit. On va démarrer Frédéric Ancel et Philippe Moreau-Desfarge, entre autres, avec La Syrie, alors que certaines ONG parlent désormais de 11 000 morts depuis le début de la rébellion il y a plus d'un an. Paris organisait une réunion jeudi avec une dizaine de chefs de la diplomatie occidentale. Il y avait Hillary Clinton, il y avait Alain Juppé, bien entendu, qui organisait cette cérémonie, cette réunion des chefs de la diplomatie arabe. Mais il n'y avait ni la Chine, ni la Russie, les alliés de Damas. Alors, l'idée qui en est sortie, c'est l'envoi d'une mission d'observateurs en Syrie avec des moyens conséquents, des moyens terrestres, des moyens aériens. Frédéric Ancel, comment cela serait-il possible et à quoi ça pourrait servir ?
Alors, ça pourrait servir à tenter de faire cesser la répression, mais en réalité, ça servirait surtout à la fin des fins à faire chuter le régime. Je n'imagine absolument pas la possibilité d'intervenir par des corridors humanitaires qu'il faudrait de toute façon défendre, autrement dit envoyer des forces, parlons très clairement, des forces militaires, sans qu'on aboutisse à la situation ou au schéma libyen de l'an dernier. Et ça, pour les Russes et les Chinois, c'est parfaitement hors de question. D'une part. D'autre part, Assad, c'est pas Kadhafi, c'est pas Ben Ali et c'est pas Moubarak. Je veux dire par là que c'est pas seulement une question de tempérament, je fais pas de la psychologie à 2 €. Simplement, on a là quelqu'un qui a des soutiens beaucoup plus importants au sein de son propre pays que n'en avaient les 3 dictateurs qui ont chuté, que je viens de mentionner, dans les leurs respectifs. Et puis, c'est pas seulement des soutiens de la communauté alaouite dont il faut rappeler qu'elle comprend environ 10% de la population syrienne. Tous les alaouites d'ailleurs n'étant peut-être pas fanatiquement derrière Assad, mais d'autres minorités également. Et puis surtout, l'armée. D'abord, tous les officiers supérieurs sont alaouites. Et puis, il y a aussi une offre politique qui continue de plaire dans une partie de l'opinion syrienne, même si c'était une partie minoritaire. Et enfin, les matériels militaires à disposition d'Assad peuvent servir et servent malheureusement depuis 11 mois à tuer pour l'essentiel des civils. Ils pourraient parfaitement servir contre les aéronefs occidentaux ou autres qu'occidentaux et nos soldats. Et ça, on ne le veut pas. Et je pense par conséquent que la situation par rapport aux 2, 3, 4 dernières semaines, et on a eu l'occasion de l'évoquer évidemment à votre micro Fabrice, n'a pas beaucoup évolué. Dernier point, Assad ne fait pas comme Kadhafi l'an dernier, c'est-à-dire que lui ne dit jamais « attention, cette fois-ci je vais me fâcher et il y aura des rivières de sang et je vais exterminer telle et telle ville ». Il ne le fait pas comme ça. À plusieurs reprises, il a accepté, je veux dire, il a fait semblant d'accepter des réformes qu'on lui demandait, il a fait 3 discours officiels radio-télé-diffusés en Syrie qui étaient des discours d'ouverture, il a accepté le plan Annan, il avait accepté le plan de la Ligue arabe. Fondamentalement, il ne se passe pratiquement rien pour une raison simple et j'en finis. Les rapports de force bruts, stricts, au sens militaire du terme, c'est tout ce qui intéresse Bachar al-Assad. Et en ça, il est tout à fait le fils de son père, puisque Hafez, pendant 30 ans, avait joué sur les stricts rapports de force militaires.
Donc, pas question d'envoyer des forces armées comme le réclament les rebelles. Hein.
Ah, ça, j'y crois pas.
Philippe Moreau-Desfarge.
Je voudrais corriger Frédéric Ancel, parce que je trouve qu'il se contredit un peu. D'un côté, il dit qu'Assad s'appuie uniquement sur les forces militaires. Or, il dit en même temps qu'il s'appuie pas seulement sur les forces militaires, mais sur un ensemble de groupes, de minorités, des commerçants, des gens qui sont inquiets. Donc, il y a quand même un jeu politique un peu plus subtil. Mais sur ce que dit Frédéric Ancel, moi, je suis tout à fait d'accord. Il n'y aura pas de mission. D'ailleurs, il l'a dit dès le début. C'est vrai que Frédéric Ancel a souligné que si cette mission doit venir. Elle devrait prendre parti quelque part. Elle devrait pousser à la chute du régime. Or, c'est évidemment impensable. Le rôle d'une mission des Nations Unies, ça ne pourrait être qu'une mission des Nations Unies, c'est d'être une mission neutre. Donc, il ne prend pas parti. Non, ça va continuer comme ça. Et le problème, c'est qu'on ne voit pas très bien la solution. On ne voit pas très... Car la solution, c'est soit l'enlisement qui continue, soit une alternative extrêmement floue. Et je vous rappelle que ce qui se passe ailleurs au Moyen-Orient n'est pas très rassurant. Je prends l'exemple de l'Égypte, où l'élection présidentielle est en train de tourner à une farce un peu tragique.
Et justement, encore une fois, on voit la Russie, la Chine qui se distingue. La Russie, elle estime que, justement, eh bien, l'envoi de moyens terrestre, aérien, enfin bon, je ne sais pas, souhaité par cette réunion de Paris, pourrait accroître les tensions entre l'opposition et Damas au détriment d'un dialogue intersyrien.
Oui, bon, alors là on est dans une posture parfaitement cynique. Les Russes, et on peut le comprendre d'un point de vue géostratégique, veulent conserver l'actuel régime au pouvoir à Damas. C'est quand même le seul partenaire militaire et stratégique d'une zone gigantesque et fondamentale qui va de Gibraltar jusqu'à l'Asie centrale. Et avec notamment la base de Tartous. Or, les Russes ne peuvent absolument pas compter sur une opposition dont on ne sait pas du tout ce qu'elle ferait si elle arrivait au pouvoir en lieu et place des Assad.
Et qui est derrière aussi ? Un mot.
Je voudrais poser une question. Qu'est-ce que veut l'Occident, Frédéric ? Qu'est-ce que veut l'Occident ?
L'Occident souhaite, à mon avis, que la situation se maintienne telle qu'elle est. Je veux dire par là que l'enlisement dont tu parlais tout à l'heure, et à juste titre, paraît, me semble-t-il, aux Occidentaux et finalement à peu près tout le monde, un moindre mal par rapport au chaos qui pourrait suivre Assad, avec en particulier une coalition dominée par les salafistes, qui est tout à fait possible en Syrie.
Pascal Johannin, la Fondation Robert Schuman. Hein.
Bah écoutez, dans cette affaire, en effet, on a deux pays qui sont contre toute solution onusienne pour l'instant, puisqu'ils ont bloqué tout projet. Donc on voit mal, en effet, quelle solution peut intervenir. En effet, l'Occident, moi j'aurais tendance à dire, il y a les mots, c'est-à-dire qu'on dit des choses, et puis après il y a ce qu'on fait en réalité, c'est-à-dire qu'on fait pas grand-chose malheureusement, parce qu'on est bloqué par deux pays qui ont dit non, et on n'a pas trop de marge de manœuvre. Et dans cette affaire, encore une fois, l'Union européenne n'a pas le rôle clé, hein, c'est les États membres, et certains, et pas tous, donc en effet, bon, Mme Ashton était bien jeudi à la réunion à Paris, mais en effet, c'était vraiment anecdotique.
Ajouter un point d'information, c'est que nous sommes en train de partir d'Afghanistan.
Ouais, alors l'Afghanistan, dimanche et lundi dernier, donc attaque suicide coordonnée à Kaboul, au centre de Kaboul, dans des quartiers ultra sécurisés, des attaques suicides menées par les talibans, une cinquantaine de morts, dont de très nombreux assaillants, le ministre afghan de l'Intérieur, Bismillah Khan.
Nos forces afghanes, par leur courage et leur sacrifice, ont tué tous les rebelles.
Voilà, de très nombreux assaillants, de très nombreux rebelles ont été tués par les forces afghanes. Alors, Frédéric Ancel, Philippe Moreau-Desfarges, on parle de l'offensive de printemps des talibans comme s'il y avait comme ça une saisonnalité.
Comme à l'époque du Vietnam, il y avait aussi une saisonnalité. Les offensives avaient lieu également au printemps, c'est-à-dire le moment où le froid recule et le climat permet de faire une offensive. Non, ça c'est tout à fait dans un calendrier de la guerre. Là, il n'y a rien de nouveau d'étonnant. J'ai envie de dire, au fond, bon, il y a cette offensive. N'oublions pas que les talibans attendent le départ des troupes occidentales. Ça va se faire. Donc, quand on annonce son départ, on est dans une position difficile.
Oui, parce que, Philippe Moreau-Desfarges, on va rappeler ça, ces attaques. On est à un mois du sommet de l'OTAN. Ce sera à Chicago, au cours duquel justement tous les gouvernements occidentaux veulent fixer le cadre de leur soutien à Kaboul après le retrait des forces internationales 2014.
Hein. J'ai envie de dire, c'est une très bonne nouvelle que le départ des Occidentaux. C'est une très bonne nouvelle. Alors on l'apprend, et je vais vous dire pourquoi c'est une très bonne nouvelle. Je suis obligé d'évoquer un événement un peu lointain qui est le Vietnam en 75. Je vous rappelle que quand les Américains ont quitté le Vietnam en 75, on a dit c'est fini, l'Asie du Sud-Est va être submergée par le communisme va venir. Or, 75, la marée communiste est à son maximum. Elle va commencer à reculer. Alors vous me direz, comment faire un parallèle entre le Vietnam et l'Afghanistan ? Je pense que l'Afghanistan, d'abord les Afghans vont se trouver face à eux-mêmes, et c'est peut-être pas mal qu'ils se débrouillent face à eux-mêmes, alors ils vont se bagarrer ensemble. Mais surtout, ce qui est important, c'est que les puissances régionales vont devoir s'impliquer. Il y a deux puissances qui vont être directement concernées, l'Inde et le Pakistan, et j'ajoute la Chine. Donc là aussi, il est temps dans un monde qui change que les acteurs régionaux ne soient pas seulement les Occidentaux, mais que les acteurs régionaux soient des acteurs authentiquement régionaux.
Oui, mais justement, on voit les talibans qui arrivent à frapper au cœur de Kaboul. C'est quoi l'état des forces des talibans, leurs moyens, leurs bases arrières ? Et puis en face, le pouvoir afghan, l'armée afghane, ils seront capables de prendre le relais des troupes occidentales d'ici un an, deux ans, Philippe Moreau-Desfarges ?
J'en sais rien. J'en sais rien et c'est un faux problème pour nous. Bon. C'est fini. Maintenant, que les Afghans se débrouillent entre eux. Je vous rappelle là aussi, rappelons ce qui s'est passé au Vietnam. En 68, il y a eu la fameuse offensive du Tet où les Nord-Vietnamiens, les troupes communistes sont arrivées au cœur des villes, comme les talibans en ce moment. Et on a bien vu, après en déchiffrant les choses, que derrière ça, il y avait de profonds déchirements entre Vietnamiens du Nord et Vietnamiens du Sud qui voulaient autre chose. Donc je pense que là, maintenant, il faut laisser les Afghans entre eux.
Frédéric Ancel, oui. Professeur de relations internationales à Sciences Po Paris.
Alors, plusieurs choses. D'abord, sur la géographie dont le grand Yves Lacoste nous rappelle qu'elle sert d'abord à faire la guerre. Alors, particulièrement, et Philippe l'a très bien rappelé, dans des pays comme le Vietnam ou comme l'Afghanistan aujourd'hui. Donc on attend effectivement le dégel, une saison plus favorable pour les talibans. Ce sont des locaux, ils savent parfaitement le faire. J'ajoute d'ailleurs que pour l'essentiel des soldats occidentaux, on a affaire à des soldats de plaine. Et l'amplitude thermique en Afghanistan, pardon de faire un peu de géographie en quelques secondes, mais elle est extrêmement dure pour des soldats qui ne sont pas habitués à cela. L'Hindou Kush culmine à 5000 et je peux vous dire que les talibans, eux, savent parfaitement se débrouiller là-bas, d'autant qu'ils bénéficient de complicités importantes dans un certain nombre de vallées, ce qui n'est pas le cas pour les occidentaux. Ça, c'est une parenthèse géographique fermée, elle me semble très importante. Ensuite, je ne sais pas non plus ce qui se passera avec l'armée afghane. Je suis très pessimiste, parce que l'Afghanistan n'est pas un État-nation. Je veux dire par là que c'est un État reconnu par les Nations Unies, c'est très bien, il y a un gouvernement et il y a un représentant à l'ONU. Mais après cela, on est sur une forme d'allégeance infiniment plus tribale et religieuse que nationale. Et les talibans, il faut rappeler que pour l'essentiel d'entre eux, ce sont des pachtounes. C'est-à-dire, c'est une ethnie en particulier. Et les pachtounes vivent en Afghanistan, mais aussi au Pakistan. Et ces deux États, comme vous le savez, encore vraiment quelques toutes petites secondes d'histoire, ont été découpés de manière assez artificielle à l'époque par les Anglais, les Russes, et surtout les Anglais, avec la ligne du rang. Donc on est là dans une revendication d'une tribu qui correspond à la plus forte minorité dans la région en Afghanistan, donc ils sont majoritaires en part relative et qui sont très traditionnalistes. Et ces gens-là donnent l'essentiel des contingents talibans, d'une part. Et d'autre part, cette armée afghane, elle a démontré jusqu'à présent, alors qu'on est, soi-disant, en train de la former depuis 10 ans, mais excusez-moi l'expression, mais qu'est-ce qu'on fout depuis 10 ans? Quelque chose comme 150 milliards de dollars lourds ont été investis qui devaient en principe permettre à la population afghane de vivre dans de meilleures conditions et par conséquent de rejeter les talibans. Mais mon Dieu, je suis certainement très naïf, où sont-ils passés ces dollars? Ça fait 10 ans qu'on forme une armée afghane qui manifestement, pour l'instant en tout cas, est à peu près incapable de seconder les forces occidentales de manière efficace. Donc je ne sais pas ce qui se passera dans un an ou deux, je suis assez d'accord, mais je le dis vraiment avec beaucoup de tristesse. Malheureusement, je suis d'accord avec Philippe, c'est plutôt une bonne chose qu'on s'en aille. Pourquoi? Parce que de toute façon, on a vécu un véritable échec alors qu'on avait tout pour réussir.
Voilà, Frédéric Ancel, qu'on va retrouver passionnant évidemment, comme à chaque fois qu'il vient nous rendre visite sur BFM Business, dans Good Morning Weekend, tout comme Philippe Moreau-Desfarges. Rendez-vous dans un instant avec Pascal Johannin, la directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Bonne matinée, à tout de suite.
BFM Business, Good Morning Weekend, Fabrice Lundy.
Et ça reprend sur BFM Business, Good Morning Weekend, l'actualité à l'étranger. Cette semaine, toujours avec nous, Frédéric Ancel, professeur de relations internationales à l'ESG Management School et à Sciences Po Paris. Pascal Johannin, auteur, co-auteur du rapport Schuman sur l'état de l'Union, de la Fondation Robert Schuman, bien entendu. Philippe Moreau-Desfarges, chercheur à l'IFRI. Alors, un scandale en Colombie, c'était le week-end dernier à Cartagène, où le sommet des Américains a été éclipsé donc par cette affaire impliquant le Secret Service du président américain. 11 membres donc de cette unité d'élite, hein, soupçonnés d'avoir fréquenté des prostituées à Cartagène en Colombie au moment où Barack Obama s'apprêtait à arriver. Ils étaient là en précurseur pour préparer le voyage. Les têtes depuis, ont commencé à tomber. Il y a eu des mises à la retraite d'office, des licenciements, des limogeages. Bref, Barack Obama a lui-même pris la parole.
Je m'attendais en réalité à cette enquête et je souhaite qu'elle soit rigoureuse. S'il s'avère que certaines des allégations qui ont été faites dans la presse sont confirmées, alors bien sûr, je serai en colère. Parce que mon attitude à l'égard du personnel des services secrets n'est pas différente de ce que j'attendais de ma délégation qui est assise ici.
Voilà, ce qu'il veut montrer, c'est de l'exemplarité. C'est Philippe Moreau-Desfarge, un sommet, je le disais, complètement éclipsé. Hein. Pourtant, les États-Unis espèrent beaucoup de ce sommet des Amériques, avec des enjeux commerciaux, des enjeux politiques. Philippe
C'est à l'hypocrisie, hypocrisie. Je pense que les agences et services secrets ont toujours fréquenté des prostituées. Je pense que l'élément neuf, c'est que maintenant, ça fasse les grands titres dans les médias. Bon, on voit très bien, et c'est ce qui est un peu triste, on voit très bien le formidable affaiblissement des États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis sont très affaiblis, et je pense que le fait que cette affaire... Et fuité, comme on dit, n'est certainement pas par hasard. Il faut rappeler que ce sommet des Amériques ne s'est pas bien passé sur des raisons de fond. Et on voit bien, les latino-américains s'affirment. Et ils s'affirment contre les États-Unis. Je vous rappelle qu'il y a eu deux questions qui ont été débattues. La première question, c'est la venue de Cuba, auxquelles les États-Unis sont toujours opposés. Et là, les latino-américains n'acceptent plus ça. Il y a une deuxième question qui a été évoquée, c'est l'affaire des Falklands. Et on voit bien que les latino-américains sont sensibles aux arguments des Argentins.
Alors, Falklands, Malouines.
Malouines. Voilà. Et probablement, le Royaume-Uni ne pourra plus refaire ce qu'elle a fait en 82. Elle avait les moyens. Troisième point qu'on a évoqué, c'est la décriminalisation des drogues. Et les latino-américains demandent aussi que le dossier soit revu. Obama a dit, on peut en discuter, mais on ne fera rien. Donc, je dirais, l'affaire des services secrets était un moyen de donner un petit coup de pied aux États-Unis. Mais je pense que c'est pas la fréquentation des prostituées qui est importante. C'est le fait que ça soit devenu une nouvelle importante dans la presse.
Alors,
dans les médias.
Il y a eu un autre scandale cette semaine. Hein. C'est le roi d'Espagne, Juan Carlos, qui a été mis en cause après un safari au Botswana. Il était parti chasser l'éléphant et l'affaire a fait des vagues en Espagne. Vous savez, dans ce pays rattrapé par la crise économique, par l'austérité, hein, avec... un jeune sur deux qui se trouve au chômage. La presse espagnole s'est indignée du coût élevé du voyage. 30 000, 40 000 euros, on ne sait pas exactement. Enfin, le voyage, il serait resté complètement secret si le roi ne s'était pas fracturé la hanche en trébuchant sur une marche qui a nécessité eh bien son rapatriement d'urgence à Madrid où il a été opéré. On a vu tous Juan Carlos donc sortir de cette clinique, de cet hôpital, et il a dû présenter des excuses justement pour son safari au Botswana. Le roi Juan Carlos.
Je me sens beaucoup mieux. Je remercie toute l'équipe médicale et la clinique, la manière dont ils m'ont traité. Je souhaite retourner à mes obligations et je regrette beaucoup. Je me suis trompé et cela ne se reproduira pas.
Je me suis trompé, cela ne se reproduira pas. Un mea culpa inédit pour le roi d'Espagne, Pascal Johannin.
Tout à fait, tout à fait. Alors, vous l'avez dit, Fabrice, c'est parce qu'en effet, il y a eu une chute et un problème physique. En effet, on a appris ce safari. Alors, c'est vrai que dans ce pays qui, toutes les semaines, annonce des plans d'austérité, il y en a encore un eu vendredi sur les dépenses de santé, eh bien, il faut être exemplaire. Et le chef de l'État, il doit être exemplaire dans tous les pays. Et s'il faute, eh bien, ça devient encore plus saisissant que quand la situation est normale. Donc là, en effet, l'Espagne est dans un temps difficile. C'est une erreur. C'est une faute morale et une faute grave d'avoir été chassé.
Une de plus, peut-être, Pascal Johannin, puisqu'il y avait déjà eu un scandale de détournement de fonds publics impliquant le genre de Juan Carlos l'hiver dernier.
Pour la couronne d'Espagne, c'est une anus horribilis cette année, hein, comme la Grande-Bretagne en a connu il y a quelques années. Donc en effet, il faut faire très attention parce que tout ça est fragile. On sait quand même que Juan Carlos a été installé après la chute de la dictature franquiste. C'est un roi qui était aimé dans son pays. Bon, il a fait des excuses. C'est en effet la première fois, mais il fallait qu'il le fasse parce que là, la faute était trop grosse. C'était une erreur. Et puis bon, la chasse à l'éléphant, ça a quelque chose un petit peu quand même de...
au
moment
où on
est un peu...
Giscardien,
voilà, écologiste, etc. Les défenses sont le trafic des défenses, on connaît ça dans le passé. Donc on a l'impression que c'est vraiment une double faute.
Même Brigitte Bardot réagit. Voilà. Hein, vous le savez. Philippe Moreau-Desfarge.
Pour ajouter le tableau, Juan Carlos a été président du WWF. Donc moi j'ai envie de dire, pour prolonger ce que dit Pascal Johannin, c'est que la monarchie en Espagne n'est peut-être pas quelque chose d'acquis.
Eh oui. C'est ce que j'allais vous demander.
On voit bien, si vous voulez, au moment où la dictature de Franco est mort, au fond on ne voulait plus parler de ce passé. Et il y avait un accord général en Espagne pour dire on ne parle plus de la guerre civile, des années sombres, Franco, etc. Je pense que ce consensus va craquer. Et on voit bien que d'ailleurs il y a toute une série de choses qui ressortent sur la guerre civile à travers le juge Garzón, mais il y a d'autres choses qui vont sortir. Et du coup, le roi est dans une position difficile. Surtout que le fils n'a peut-être pas l'envergure du père.
Oui, Frédéric Ancel.
Je pense que l'illustre ancêtre de ce roi, à savoir le très mauvais Louis XIV, doit se retourner dans sa tombe voyant quelqu'un de son sang faire faire un mea culpa, même sur une chasse aux éléphants qui n'est pas, je le rappelle, sans rappeler les années françaises giscardiennes.
Oui, mais le roi est toujours populaire quand même, Pascal Johannin.
Le roi,
ou alors l'unanimité commence à fissurer, comme le laissait entendre Philippe.
Mais il y a des bruits en Espagne qui disent qu'il faudrait qu'il abdique en faveur de son fils, qui donnerait peut-être un peu de sang neuf pour revenir un peu sur ce que disait Philippe, en effet. Et on voit bien que ces questions de royauté sont sensibles partout. On a eu le roi de Suède aussi qui a été un peu accusé d'avoir une vie facile, etc. Donc les chefs d'État doivent être exemplaires, qu'ils soient élus ou désignés par la naissance, etc. Ils doivent être exemplaires parce que dans ces temps de crise, on veut qu'ils fassent président, on veut qu'ils fassent roi et pas seulement être du fait d'une élection ou de la naissance.
Philippe Moreau des Farges.
Comme le montre très bien les images, un roi ne peut pas abdiquer. Un roi ne peut pas abdiquer. Quelque part, je vous rappelle, la monarchie, c'est une continuité par le sang. On attend la mort du souverain pour qu'il y en ait un autre qui arrive. Si l'abdication se produit, on introduit une faille dans le système de monarchie. Donc, je crois que là, le roi n'abdiquera pas.
Alors, dans une autre monarchie du Nord, cette fois la Norvège, avec ces images, le procès d'Anders Breivik pour les massacres de juillet dernier. Aucun remords, vous l'avez entendu, son but c'était de tuer tous les jeunes travaillistes de l'île d'Utøya. Il en exécutera d'ailleurs 69 fin juillet, après avoir fait sauter d'ailleurs une bombe à Oslo quelques heures avant. Il projetait de faire de même d'ailleurs contre un squat célèbre de la capitale. Pas question pour lui de plaider coupable. Anders Breivik.
Je reconnais les faits, mais je ne reconnais pas ma culpabilité. J'ai agi en état de légitime défense.
Qu'est-ce que, Pascal Johannin, vous, la directrice générale de la Fondation Robert Schuman, qu'est-ce que révèle cette affaire? Est-ce que la Norvège a changé depuis cet été? Qu'est-ce qui s'est passé dans les mentalités?
Oui, on croit toujours que ces pays scandinaves, tout va bien, tout le monde est content, il n'y a personne, etc. On se rend compte qu'ils sont aussi sujets à des mouvements extrêmes. On l'a vu en Finlande avec les vrais Finlandais. On le voit avec Monsieur Breivik. Alors, je ne sais pas ce qu'il représente, parce que lui seul représente rien. Mais en effet, c'est quand même un fanatique dangereux qui fait le froid dans le dos, parce qu'on nous a dit pendant longtemps qu'il était soi-disant incapable de pouvoir être jugé parce qu'il était à moitié fou, etc. Enfin, il n'est pas à moitié fou. Depuis 3 jours que son procès a ouvert, on se rend compte qu'il est pleinement conscient de ses actes, qu'il défend parfaitement ce qu'il a fait.
Bien sûr. Et il s'estime en guerre pour protéger l'Europe contre l'invasion musulmane.
Avec des mots qui sont tout à fait lucides et qui font froid dans le dos aux gens sensés que nous sommes, parce que s'il avait pu, il aurait tué tous les jeunes qui étaient sur l'île d'Utøya, il aurait essayé de tuer le gouvernement, et avec le roi qui avait ses faveurs parce qu'il est un peu plus royaliste que légitimiste.
Mais est-ce que la Norvège a changé un peu de mentalité, c'est remise en question, je ne sais pas.
Oui, c'est cette question qu'on retrouve dans tout le nord de l'Europe avec ces mouvements, c'est en effet la question de l'immigration. C'est-à-dire qu'on a l'impression, les gens qui sont blancs, aux yeux bleus, le teint pâle, etc., qui pensaient qu'en effet un peu des vikings, on va dire, et qui voient arriver des gens qui ne sont pas vikings et qui viennent, et on a l'impression qu'ils sont submergés. C'est faux dans la réalité. Le pourcentage de population immigrée n'est pas aussi développé, mais c'est un schéma qui est en train de prendre, et on voit bien que ces partis deviennent importants, parce qu'en effet, on voit les Pays-Bas, on voit le Danemark, on voit la Finlande.
Alors, ce que je vous propose, on va laisser passer les infos de la nuit avec Pauline Tadevin, bien entendu. On va vous retrouver d'ici 5 minutes sur BFM Business, la suite de Good Morning Weekend. On continuera sur la Norvège. Et puis, je vous le disais, donc un invité qui va nous retrouver dans un instant, il était à quelques mètres du nouveau dirigeant nord-coréen. C'était dimanche dernier dans la tribune officielle, Kim Jong-un, qui a succédé donc à Kim Jong-il, c'était il y a 3-4 mois maintenant, après la disparition donc du numéro 2 de la dynastie communiste. Restez avec nous, dossier spécial donc dans 5 minutes. À tout de suite, bonne matinée.
Good Morning Weekend, la double page info du week-end, Fabrice Lundy sur BFM Business.
Et voilà, c'est reparti. À tout à l'heure pour l'interview. On se retrouvera donc à l'heure pour les prochaines infos dans une grosse vingtaine de minutes. Alors avec nous toujours Frédéric Ancel, professeur de relations internationales à l'ESG Management School et à Sciences Po Paris, pour revisiter l'actualité à l'étranger cette semaine. Pascal Johannin, la directrice générale de la Fondation Robert Schuman, co-auteur du rapport Schuman sur l'état de l'Union. Et Philippe Moreau des Farges, face à l'énorme succès de la première édition, la géopolitique pour les nuls. Allez, il y a une réédition, donc c'est reparti. Donc Philippe Moreau des Farges, chercheur à l'IFRI. Philippe, juste avant les infos de Pauline Tadevin, oui. On évoquait donc le procès qui a démarré donc en début de semaine d'Anders Breivik à Oslo, l'auteur de tous les massacres de juillet dernier, notamment contre ces jeunes travaillistes qui était en séminaire donc sur l'île d'Utøya. Je posais la question, est-ce que la Norvège a changé? Est-ce que là tout ça a ouvert d'autres horizons? Philippe, allez-y.
Oui, non, mais j'ai envie de dire que ce problème de terroristes individualistes n'est pas un problème norvégien, c'est un problème occidental. On va en voir partout. Et je pense que là, c'est vrai que le cas norvégien est peut-être un cas un peu particulier, mais je pense que ce sont des phénomènes qui vont se développer avec la crise économique, avec malgré tout des individus qui peuvent être dangereux. Je crois qu'il faut pas dire c'est nordique, hein. Ça peut être beaucoup plus général. Je vous rappelle qu'un pays méditerranéen, pour le moment relativement calme, a connu des degrés de violence extrêmes, qui était l'Italie. Je vous rappelle l'Italie des Brigades Rouges, ou même l'Allemagne de la bande à Baader. Donc, la violence, ça circule. Mais c'est vrai que ce sont des événements inquiétants.
Frédéric Ancel.
Oui, c'est vraiment l'illustration du fanatisme comme déshumanisation. Voilà. Parce que c'est quand même très compliqué de tuer à bout portant des jeunes gens, enfin de manière générale un être humain. C'est très compliqué, sauf si vous l'avez préalablement déshumanisé. Ouais. Alors, pour différentes raisons, je suis d'accord avec ce qui a été dit, je pense pas, enfin, je ne pense l'enquête, le procès, dira si oui ou non il est fou, mais alors dans ce cas-là il faudrait, je crois, donner une interprétation très extensive de ce qu'est la folie. Je ne suis pas psy donc je peux pas en parler, mais je ne pense pas, parce que on est là sur une très grande cohérence politique qui n'est pas sans rappeler, comparaison n'est pas raison, mais pardon je le dis quand même, le nazisme. Et la déshumanisation correspond parfaitement à ce qu'on appelle le fanatisme, et je pense que c'est un mot qu'il ne faut pas galvauder, parce que on voit effectivement ce terrorisme individuel, comme l'appelait à juste titre Philippe il y a un instant, qui est tout à fait qui est très difficilement contrôlable, et on peut parfaitement le voir émerger ou réémerger dans des sociétés effectivement démocratiques.
Philippe Moreau Desfarges de l'IFRI.
En plus, c'est terrible, nous sommes des sociétés où on trouve de tout très facilement, on trouve des armes très facilement, etc. En outre, ce qui est intéressant dans le cas du Norvégien, c'est qu'il a tué non pas des étrangers, il a tué des Norvégiens. Il a tué des Norvégiens. Donc il y a une espèce de, à la limite, de haine de soi qui est très compliquée. C'est-à-dire, au fond, la Norvège n'est plus ce pays rêvé dont il avait besoin, et je crois que ce sont des phénomènes qu'on va retrouver dans beaucoup d'autres parties, au moins de l'Occident.
Frédéric.
Alors, oui, juste d'un mot, le fanatique, fondamentalement, cherche d'abord à purifier l'intérieur de son propre camp. Et ça, ce que tu as dit est tout à fait fondamental. Dans la majorité des cas, que ce soit sur le plan politique, sur le plan religieux, on le voit avec les islamistes radicaux ces dernières décennies, on purifie d'abord son propre camp pour ensuite lancer qui le djihad, qui la croisade.
Allez, un mot cette semaine sur le Mali, parce qu'on y a consacré de longues minutes, hein, ces 4-5 dernières semaines. Hein, bon, tout s'est encore accéléré cette semaine, hein, avec notamment jeudi le départ en exil de l'ex-président Amadou Toumani Touré, vous savez, le président ATT, qui a trouvé refuge au Sénégal, tout près évidemment. Il y a eu la libération des responsables civils et militaires arrêtés en début de semaine sur instruction des putschistes maliens. Et puis, alors, c'est ça aussi qui m'a intéressé cette semaine, le Mali qui s'est doté d'un nouveau Premier ministre, hein, nouveau Premier ministre, Cheikh Modibo Diarra. Il a 61 ans. Parcours extraordinaire. Il a fait des études à Paris. Il a eu une licence en mathématiques. Il s'est rendu ensuite aux États-Unis. Alors, il a fait des petits boulots, évidemment, pour gagner sa vie. Il a fait notamment vendeur de colliers. Là, il a obtenu des diplômes en génie mécanique avec une spécialisation l'astronautique. Il a été repéré par la NASA au milieu des années 80, puisqu'il devient navigateur interplanétaire au Jet Propulsion Laboratory, très connu, le JPL, laboratoire d'un institut californien de technologie, sous contrat avec la NASA. Et à ce titre, il a dirigé plusieurs missions spatiales pour la NASA. Il est ensuite devenu américain, ensuite ambassadeur de bonne volonté auprès de l'UNESCO, premier président de l'université virtuelle africaine, président de Microsoft pour l'Afrique depuis 2006, et donc maintenant premier ministre du Mali. Philippe Moreau Desfarges.
D'abord, c'est magnifique, Fabrice Lanier. D'abord, ça en dit long sur, j'irais, un certain racisme anti-africain. Ça prouve que les Africains, ils peuvent être remarquables et aussi remarquables.
Attention, non, que je ne me faites pas porter des mauvais sentiments.
Mais ce que je veux dire, c'est que cet homme casse un cliché, si vous voulez. On a toujours un cliché d'Africains qui ne s'intéressent pas à la technologie, qui sont enfermés dans leur nature et tout ça. On voit bien que cet homme-là, il est vraiment un Africain mondialisé dans le meilleur sens du terme. Alors, la grande question qu'on doit se poser, avec une vie aussi extraordinaire, on ne peut que lui citer de réussir. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Et notamment, le problème, c'est comment va-t-il traiter cette question Touareg, qui est très difficile. Est-ce que son talent intellectuel, sa compagnon de talent politique, là, c'est un grand point d'interrogation.
Frédéric Ancel.
C'est un point d'interrogation qui s'appuie sur la situation objective du Mali, qui est dans le top 5 des pays les plus pauvres du monde et dont les ressources naturelles commercialisables sont extrêmement faibles et très rares. Et puis d'autre part, qui est très enclavé, effectivement, pâtit d'une situation que j'hésite à appeler ethno tribale. Mais enfin, le problème Touareg, il existe. Et les Touaregs n'ont jamais réellement été reconnus dans leurs conditions, d'abord identitaires et culturelles, mais aussi aussi et surtout n'ont-ils jamais bénéficié de la part du pouvoir central, et c'est, d'ailleurs c'est pas vrai qu'au Mali, hein, du pouvoir central n'ont jamais bénéficié d'aide, de subventions publiques, mais enfin à un point extrêmement dur. Alors qu'ils se révoltent en cherchant ici ou là tel ou tel allié, ça peut être des islamistes, ça aurait pu être autre chose, c'est quelque chose qui était, j'ai envie de dire, dans l'air du temps et depuis 50 ans, et ça ne concerne pas que le Mali. Alors dans cette situation globale, soit ce Premier ministre va pouvoir bénéficier d'aide substantielle de la part de l'Occident, j'ose pas dire de la Chine, je préférerais dire aux grandes dames peut-être de Philippe, de l'Occident, ce serait peut-être un peu moins commercial que ce qu'envisagerait l'aide chinoise, encore que, soit il ne bénéficiera pas de cette aide-là, et il a beau être très intelligent et avoir fait des diplômes et très courageux et tout ce que vous voulez, il hérite d'une situation qui est objectivement très très difficile.
Encore un mot, Philippe.
Je me permets de poser une question, c'est pourquoi il a choisi cette responsabilité. C'est extrêmement courageux de la part de cet homme, au fond, qui a extrêmement bien réussi, de se mettre dans un tel guépier. Bravo, bravo.
Voilà, donc Cheikh Modibo Diarra, 60 ans, Premier ministre du Mali, avec pour mission de former un gouvernement d'union nationale et puis s'attaquer en priorité à la crise dans le Nord, dont on a beaucoup parlé. Très bonne matinée sur BFM Business. Bon, il n'est pas tout à fait moins le quart. On va garder un long moment dans un instant sur Good Morning Weekend, hein, pour être au cœur du pouvoir nord-coréen, avec notre invité qui va nous rejoindre dans une poignée de secondes, hein, aux côtés de Philippe Moreau-Desfarges, de Pascal Johannin, Frédéric Ancel. Tiens, Pascal Johannin qui était aussi en Corée, l'autre Corée, la Corée du Sud, il y a une dizaine de jours. À tout de suite, bonne matinée.
BFM Business, Good Morning Weekend, Fabrice Lundy.
Good Morning Weekend, on continue l'actualité à l'étranger cette semaine, toujours avec Pascal Johannin, la directrice générale de la Fondation Robert Schuman, avec Philippe Moreau-Desfarges, chercheur à l'IFRI, puis Frédéric Ancel, professeur de relations internationales à l'ESG Management School et à Sciences Po Paris. Alors, dans ce studio vient de nous rejoindre Benoît Quenaudet. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Benoît Quenaudet, vice-président de l'Association d'amitié franco-coréenne. Vous êtes en train de préparer un livre sur l'économie de la Corée du Nord. La Corée du Nord, justement, on y vient, parce que c'est aussi, hein, c'était cette semaine de festivités qui s'est terminée dimanche dernier, c'était donc le 15 avril, hein, 15 avril 1912, 15 avril 2012, les 100 ans de la naissance de Kim Il-sung. Et puis, il y a eu le sacre du petit-fils Kim Jong-un à la tête du Parti du Travail, le parti unique, hein, avec des défilés militaires, des parades. Vous, Benoît Quenaudet, vous étiez à la tribune officielle encore il y a quelques jours, il y a une semaine, puisque c'était dimanche dernier, donc tribune officielle en plein cœur du pouvoir nord-coréen à Pyongyang, hein, pour assister à ce long défilé militaire. Déjà, vous y avez assisté dans quel cadre, avec quel titre, hein?
Alors, J'étais présent en Corée du Nord, comme vous le disiez, dans le cadre de l'Association d'amitié franco-coréenne, qui est donc une association qui a été fondée en 1969 et dont le but est de développer les échanges entre la France et les deux Corées sur un pied d'égalité. Ce type de manifestation est classique dans le cas des événements, des anniversaires du régime. Là, il prenait une dimension particulière puisque, comme vous le disiez, c'était le 100e anniversaire de la naissance du président Kim Il-sung, le fondateur de la République populaire démocratique de Corée en 1948, et c'était aussi le premier discours public de Kim Jong-un. J'ai pu le voir, nous étions à une vingtaine de mètres. La ressemblance avec son père est frappante. Dans l'esprit des Coréens, c'est la réincarnation du grand-père. Pourquoi cette réincarnation? Kim Il-sung, lorsqu'il arrive en 1945, puis avant la fondation en 1948, il représente la guérilla anti-japonaise, l'idée d'une certaine modernisation, le fondateur, il a à peu près le même âge que lui, ce sont des années qui, jusque des années 70, sont des années de très forte croissance économique, dans le spectacle qui était offert, en quelque sorte, c'est le retour vers les années phases, vers les années d'or de cette période d'après-guerre, après Seconde Guerre mondiale et d'après-guerre de Corée.
Alors, Kim Jong-un a pris la parole, hein, discours qui survenait deux jours après le tir manqué d'une fusée soupçonnée par les États-Unis, par le Japon, la Corée du Sud d'être un missile balistique. Aucun pays ne peut nous attaquer, a-t-il lancé. La Corée du Nord ne sera plus jamais menacée par l'arme atomique. Hein. Alors, on peut parler du fond dans un instant, mais sur la forme, c'est important aussi qu'il ait pris la parole parce que son père, Kim Jong-il, lui, ne prenait jamais la parole.
Tout à fait. C'est le premier discours en public d'un dirigeant nord-coréen depuis 1994, c'est-à-dire la mort du président Kim Il-sung. Et tout ça intervient quelques mois après la disparition de Kim Jong-il le 17 décembre dernier. Donc la première image, c'est un signe de confiance du nouveau pouvoir, un signe également de continuité. Et ce qui est extrêmement important, c'est que les Nord-Coréens ont reçu cette leçon, ont gardé cette leçon de l'Irak. Si l'Irak a été envahi en 2003, c'est pas parce qu'elle n'avait pas, parce qu'elle avait, elle avait des armes de destruction massive. On sait aujourd'hui qu'elle n'avait pas. Elle était envahie parce qu'elle n'en avait pas. Et aujourd'hui, les Nord-Coréens considèrent leur meilleure garantie survie, eh bien, c'est de montrer la puissance militaire. D'où ce défilé où on a vu pour la première fois apparaître les missiles de longue portée intercontinentaux Taepodong. D'où l'importance également de montrer la puissance technologique. Vous parliez justement du lancement du satellite Kwangmyong-Song 3. Ce satellite, il a été développé à partir de la technologie militaire des Taepodong. C'est pas nouveau. Les États-Unis, la France, d'autres pays ont utilisé cette technologie militaire pour une technologie spatiale.
Ça veut dire que quand vous entendez le dirigeant suprême s'exprimer, donc la semaine dernière, ça veut dire quoi ? Le pays ne va pas bouger ? On va continuer toujours avec des nouveaux tirs de fusée, avec de nouveaux essais nucléaires ? Ça va continuer comme avant ?
Disons qu'aujourd'hui, plusieurs scénarios sont possibles. Le discours à la fois de Kim Jong-un, donc son premier discours public, comportait cette idée « aujourd'hui, nous sommes une puissance souveraine, indépendante, autonome, qui assure son autonomie militaire ». Ça, c'est un côté du discours. L'autre côté, c'est de dire « eh bien, écoutez, si jamais vous souhaitez la paix, si des pays respectent notre indépendance et notre souveraineté, nous sommes prêts à coopérer ». Donc, il y a ce double discours. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Les Nord-Coréens attendaient la réaction des puissances occidentales. On n'a pas vu dans ce discours d'éléments anti-américains. Par contre, après, lorsqu'il y a eu la condamnation par la déclaration de la présidence du Conseil de sécurité, là, on a vu effectivement un changement de discours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une partie diplomatique qui s'engage, y compris avec la Chine, qui est le principal allié de Pyongyang, et c'est à mon avis de l'issue de cette partie diplomatique que dépendra justement l'avenir et les évolutions.
Benoît Quenodet, Philippe Moreau-Desfarges, j'ai une question à vous poser, oui, ou une remarque, une réflexion.
Non, comment va l'économie nord-coréenne? Et premièrement, comment va l'économie? Est-ce qu'il y a des perspectives de réforme de cette économie?
L'économie nord-coréenne a engagé un train, alors on ne dit pas de réforme, on dit de mesures économiques qui ont été lancées en juillet 2002. Aujourd'hui, les entreprises sont autonomes. Aujourd'hui, il y a un appel sans ambiguïté aux investissements étrangers. Donc, il y a effectivement et aussi une libéralisation des salaires. Alors, sur l'état de l'économie nord-coréenne, elle est déjà, il y a une partie agricole qui est très dépendante des aléas climatiques. L'institut de recherche de Hyundai, c'est le principal conglomérat sud-coréen qui est présent au nord de la péninsule, a estimé l'an dernier la montée du PIB nord-coréen par habitant à 4,6%. Ce qui veut dire que si on prend l'évolution démographique, 0,6%, on arrive à 5,2% de croissance. Et c'est vrai que moi, par rapport à mon précédent voyage en 2008, on sent qu'il y a un développement économique. Les rues sont éclairées la nuit. Il y a une plus grande production d'électricité. Le téléphone portable vient de dépasser la barre du million de souscripteurs. Il y a un développement.
À quoi ressemble Pyongyang? Je n'y suis jamais allé. Je pense qu'aucun de nous quatre n'y sommes jamais allés. À quoi ça ressemble Pyongyang en 2012?
Pyongyang, aujourd'hui en 2012, me donne l'image d'une capitale asiatique telle qu'on peut l'avoir dans d'autres pays. On voit les néons éclairer la rue, les noms des magasins, aussi les slogans. Ça, c'est une des spécificités. Mais le pays, aujourd'hui, présente l'image d'un pays, en tout cas la capitale, d'un pays qui connaît un développement et qui cherche, sur la voie de la modernité économique, à se développer rapidement. Les Nord-Coréens, ce sont des Coréens. Les Sud-Coréens, ce sont les premiers pays pour le développement du téléphone portable, pour la téléphonie mobile. Il y a le même engouement pour les nouvelles technologies, la même volonté de montrer une image de modernité et de nouvelles technologies au nord comme au sud.
Mais ils n'ont pas accès à ces téléphones mobiles, les Nord-Coréens.
Non, c'est des téléphones qui sont...
Oui, allez-y, Pascal Johanna, qui revient de Corée du Sud.
Oui, c'est des téléphones qui sont uniquement à usage interne. Hein, voilà. Non, moi, ce que je voudrais dire, d'abord, sur l'économie, il y en a plusieurs. On croit que parce que c'est un régime dit communiste, ça ressemblerait à ce qu'on a connu dans les régimes soviétiques et chinois. Il y a plusieurs économies. Il y a l'économie, j'allais dire, officielle, qui profite au régime. Il y a l'économie militaire qui profite aux dignitaires du régime. Alors, à savoir si les dignitaires du régime et les officiels sont la même chose. Et puis, il y a une économie qui s'est un peu développée parce que, j'allais dire, grise ou sous-jacente de la population qui essaie en effet de faire du business, enfin, qui essaie de faire à un modeste niveau pour essayer de s'en sortir. Parce que la situation quand même est catastrophique, il faut quand même bien le dire. Alors, bien entendu, on dit qu'ils ont un pourcentage de développement, mais enfin, c'est aussi un pourcentage de développement par rapport à ce qu'ils avaient, c'est-à-dire pas grand-chose. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi les façades qu'on veut bien montrer aux Occidentaux quand ils y vont, la lumière éclairée la nuit, etc. Toutes les images satellites que l'on voit, qui sont faites par des satellites occidentaux, montrent que la Corée du Nord est noire, comme l'Albanie était noire encore il y a quelques années.
Roger, au
donc,
début des années 90,
la lumière, elle est, quand on veut, pour les gens qui sont là et à qui on veut montrer, etc. Bon, et il y a quand même un réel problème, c'est que ce pays qui n'a rien, enfin qui a peu de et qui est un peu isolé parce que, mis à part les Chinois qui les soutiennent du bout des doigts, ils ont des problèmes avec les Russes, ils ont des problèmes avec les Coréens, ils ont des problèmes avec les Américains, avec les Chinois, ça se soutient un peu. Donc, c'est quand même une puissance qui est vue comme dangereuse parce que, avec cette arme nucléaire qu'ils utilisent, qui veulent utiliser des recherches. Bon, la fusée a fait pchit. Bon, mais du coup, les Sud-Coréens réarment. Les Américains sont toujours là. Donc, on a en effet une bande à trois qui se joue un petit peu en dehors des Nord-Coréens, entre la Chine, la Russie et les Américains, pour parler simple. Et que c'est là le truc, parce que ce discours, je veux montrer que je suis encore fort, etc., gèle un petit peu la résolution du problème coréen.
Oui. Vous êtes bien conscient que vous, Français, on est systématiquement accompagné, vous êtes d'accord.
C'est évident. Voilà. C'est évident.
La Corée du Nord s'était ouverte aussi exceptionnellement à quelques dizaines de journalistes occidentaux qui étaient aussi bien encadrés, bien entendu. Et vous voyez ce qu'on veut bien vous montrer, bien entendu.
Tout à fait. Bon, ça, je tiens effectivement à dire, c'est évident qu'on voit ce qu'on veut nous montrer. L'intérêt, et moi, c'est sur quoi j'insiste par rapport au précédent voyage. En 2008, quand j'étais allé, Pyongyang est dans le noir la nuit. Aujourd'hui, c'est plus le cas.
Ah, vous faites la différence, en effet.
Voilà, entre 2008 et 2012. Après, c'est tout à fait exact de dire qu'il y a plusieurs économies. C'est évident qu'il y a aujourd'hui, par exemple, des marchés privés qui sont florissants. C'est évident également qu'il y a toute une économie militaire sur laquelle, finalement, on connaît très peu de choses, mais qui est une économie qui existe, hein. Le pays est exportateur aujourd'hui d'armes militaires. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus se tromper dans les images qu'il y a. Beaucoup aujourd'hui d'images qu'on a, et je pense notamment aux photos satellitaires, sont des photos des années 90. La Corée du Nord 2012 n'est plus celle des années 90. C'est pas non plus un pays dans les plus développés au monde, hein, il faut être tout à fait conscient, mais il y a des évolutions, il y a des changements.
Frédéric Ancel, je vous écoute.
Est-ce que les Nord-Coréens sont d'abord Nord-Coréens ou Coréens? Je veux dire par là que la représentation identitaire des Nord-Coréens, est-ce que c'est d'être très proche et finalement frère de ceux du Sud, même si sur le plan politique on est divisé maintenant depuis et antagoniste depuis très longtemps? Et évidemment, ma question a une conséquence géopolitique. Est-ce que le régime ne craint pas, en cas d'ouverture au moins à minima de son économie, éventuellement du tourisme un jour, pourquoi pas, d'autres pays l'ont fait, tout simplement son effondrement au profit évidemment du Sud, qui engloberait, sans qu'il y ait la moindre action militaire, évidemment, l'intégralité de la population du Nord qui, de toute façon, se sentirait coréenne.
Alors, les relations intercoréennes sont un sujet qui est compliqué, parce qu'à la fois, les Nord-Coréens se considèrent comme coréens, et on le voit, par exemple, dans les manifestations, par exemple, typiquement, prenons par exemple les matchs de foot, quand le Nord jouait contre le Brésil, ben, le Sud souhaitait la victoire du Nord. De la même façon, quand il y a un match entre la Corée du Sud et un autre pays, les Nord-Coréens, ben, ils souhaitent la victoire du Sud. Donc, il y a un sentiment national qui est très fort. Après, la difficulté aujourd'hui qui se présente, c'est que le Sud est deux fois plus peuplé. Le Sud a connu un développement économique qui est plus grand. Il est évident qu'il y a une différenciation. Les relations intercoréennes sont compliquées à gérer. Vous parliez de la Corée du Sud. Il y a eu des élections en Corée du Sud le 11 avril. Contre toute attente, finalement, ce sont les conservateurs qui ont gardé le pouvoir.
Les conservateurs du président Lee Myung-bak.
Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, pour faire un dialogue, il faut être deux.
Oui, on a vu ce vendredi un grand rassemblement en Corée du Nord, hein, en plein centre de la capitale Pyongyang, pour dénoncer le président sud-coréen.
Oui, le président sud-coréen, son mandat arrive à échéance en décembre, donc il y aura des élections présidentielles également en Corée en décembre.
Philippe Moreau des Formes.
En Corée du Sud, hein, bien évidemment. Oui,
Philippe Moreau des Formes.
Est-ce que dans les rues de Pyongyang, on voit des bobos, c'est-à-dire, ou des jeunes un peu occidentalisés? Est-ce qu'on voit aujourd'hui dans les rues de Pyongyang un peu une population qui détonne par son mode d'habillement, je pense par des cheveux longs, par des jeunes qui ont des voitures un peu...
Pensez aux jeunes japonais,
Benoît Quenodet, donc vice-président de l'association franco-coréenne, on vous écoute.
Oui,
hein,
alors,
vous en revenez.
Aujourd'hui, alors ça, bon, moi, ma première visite dans le pays, c'était en 2005.
Ah, oui,
et ça, on a vu, mais ça avait déjà commencé dans la deuxième moitié des années 2000. On voit des vêtements qui sont beaucoup plus colorés.
Oui.
On voit également un goût pour les modes occidentales. On parlait du téléphone portable. Il y a 1 million de souscripteurs.
Oui.
On sent qu'ils sont très souvent sur le téléphone portable. Oui. On sent qu'il y a un certain goût vis-à-vis des modes occidentales dans l'habillement. Après, voilà, on porte pas de jeans à Pyongyang.
Toute proportion gardée, voilà.
On n'est pas encore avec les cheveux longs. Mais on sent effectivement qu'il y a un, qu'il y a, disons, une appétence pour des cultures occidentales.
Justement, ce président nord-coréen, Kim Jong-un, qui a maintenant, eh bien, toute la panoplie, eh bien, de chef du parti, chef des armées, etc. Il a 29 ans, 30 ans, c'est pas exactement quel âge il a, mais bon, il est pas très très vieux. Il a vécu en Occident, il a vécu notamment en Suisse. Est-ce qu'il est capable d'ouvrir un petit peu plus son pays, à votre avis, Benoît Quenodet? Est-ce que le pays va se transformer?
Bon, ma conviction est qu'aujourd'hui, la nouvelle équipe dirigeante nord-coréenne est acquise à l'idée d'approfondir les mesures économiques pour augmenter le niveau de vie de la population.
Avec des enjeux technologiques aussi, ça c'est important.
Avec aussi des enjeux technologiques, le lancement du satellite, c'est pas uniquement une manifestation de puissance et de grandeur.
Pour vous, c'est un satellite vraiment ou pas?
Oui, on a vu des experts sur place, ils nous ont précisé, c'est un satellite. Ils ont pu visiter le centre de lancement. Il n'y a aucun doute, c'est un satellite développé à partir de technologies militaires, mais c'est un satellite.
Mais non. Qui peut servir à autre chose éventuellement, cette fusée?
Après, on sait toujours que la technologie spatiale et militaire ont partie liée. Il faut pas être naïf. Ça a été le cas en Russie, ça a été le cas en Union soviétique, aux États-Unis. Non, le nouveau dirigeant, ça représente un changement générationnel. Et nous, on le voit très bien, moi, dans les interlocuteurs nord-coréens que je rencontre. C'est pas le même type d'approche quand quelqu'un a 30 ans, 50 ou 70. Mmh. Après, ce qui est certain, c'est que c'est aussi une direction qui est beaucoup plus collective. On a un pays de culture confucéenne où les anciens, ça compte. Et par exemple, dans les discours qui s'introduisent, c'est le président de l'Assemblée, Kim Jong-nam, qui ouvre les discours, il a plus de 80 ans.
Il y a un livre en ce moment qui est sorti en France, Rescapé du camp 14, qui décrit donc les camps de concentration dans des conditions extrêmement difficiles, la vie dans ces camps. Est-ce que ça va continuer ou est-ce qu'il va y avoir une ouverture un petit peu plus, une libéralisation, Benoît Quenodet?
Alors là, on aborde ce qui était dit. Nous, on n'a pas accès. Hein. Il faut être
bien entendu,
franc.
Mais d'après ce que vous sentez, parce que vous connaissez très bien ce pays.
Disons que ce que je dirais, c'est que dans tout pays, le système d'emprisonnement ou le système de zone de rétention, c'est toujours là où les gens vivent le plus difficilement. Il est évident qu'en des années 90, le pays a de graves problèmes alimentaires. Ces zones, je dirais zones de rétention, parce qu'en fait, on y va en famille. Hein. C'est toute une famille qui est ce
terrible.
De la même façon qu'il y a la capitale, qu'il y a d'autres régions. Mmh. En quelque sorte, on met à l'écart. Je pense que si la situation globale s'améliore, il n'y a aucune raison que ça ne s'améliore pas, y compris dans ces zones.
Allez, la dernière question, ça sera Pascal Johannin, à vous.
Rapidement, alors d'abord, à côté du cher leader, comme ça, il y a quand même encore tous les vieux militaires qui sont là et qui ne sont pas des poulets de printemps. Deux, sur les défecteurs, comme on les appelle, c'est-à-dire les déserteurs, ça existe encore, c'est-à-dire que c'est quand même pas encore le paradis, la Nord-Corée, et qu'il y a beaucoup de gens qui fuient ce régime. Et puis alors, simplement pour un dernier essai, si la fusée nord-coréenne a fait pchit, et donc on voit qu'en effet, la technologie n'est pas encore là. Je voulais simplement signaler que jeudi, l'Inde, elle, a fait par contre son lancement de tirs de missiles et que donc, on peut en effet penser que ce pays, qui est un grand pays, le deuxième plus grand et peut-être le plus grand demain en termes de population, va devenir en effet une puissance nucléaire supplémentaire avec en effet le pouvoir qui va avec.
Benoît Quenodet.
Alors, c'est très extrêmement intéressant la comparaison avec l'Inde parce que du point de vue des Nord-Coréens, ils vont se dire c'est deux poids deux mesures. L'Inde ne réagit pas, nous on réagit. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne faut pas avoir une distinction uniquement civile-militaire. C'est beaucoup plus compliqué, la cartographie du poids en Corée du Nord. On est dans une culture coréenne où ce qui compte, ce sont les liens personnels. Et aujourd'hui, par exemple, le groupe compte. Et par exemple, aujourd'hui, un des personnages, par exemple, clés, c'est Jang Song-taek. Jang Song-taek, c'est le vice-président de la Commission de l'Affaires nationales. C'est quelqu'un, il a la haute main sur le parti et l'organisation. Et cette nouvelle génération qu'une soixantaine d'années.
Voilà, merci de votre témoignage, c'est très intéressant. Benoît Quenodet, donc vice-président de l'association d'amitié franco-coréenne, qui était il y a encore une semaine à Pyongyang, aux cérémonies du 100e anniversaire de la naissance de Kim Il-sung. À bientôt. Frédéric Ancel, passionnant aussi, évidemment, on a passé une heure formidable. Professeur de relations internationales à l'ESG Management School. Philippe Moreau-Desfarges, auteur de La géopolitique pour les nuls, deuxième édition. Et puis, pour tout savoir sur l'état de l'Union européenne, le rapport Schuman, rédigé, co-rédigé par Pascal Johannin. Merci à tous.